Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump annonce une taxe de 5% sur tous les produits importés du Mexique. 5%, puis 10, voire 25% au fil des mois. Le président américain veut ainsi peser sur l'immigration venue d'Amérique centrale vers les États-Unis. Parti de Belgique, hier soir, le corps de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi est enfin arrivé en République démocratique du Congo, 2 ans après sa mort. Reportage sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa dans ce journal. Et puis nous analyserons l'annonce du procureur de la République de Paris. Il assure que des policiers seront jugés pour des violences sur des manifestants gilets jaunes ces derniers mois. Réaction à suivre. Après la Chine et l'Europe, Donald Trump menace donc économiquement le Mexique. Le président américain annonce des droits de douane sur tous les produits mexicains, une hausse de 5% ces prochains jours, tant que le flux de migrants clandestins venus d'Amérique centrale en traversant le Mexique ne sera pas stoppé. Le président mexicain appelle lui ce matin au calme, au dialogue, mais Donald Trump semble décidé à poursuivre sa stratégie de chantage, Grégory Phillips.
Si la Maison-Blanche applique bien la menace de Trump, à partir du 10 juin prochain, tous les produits en provenance du Mexique seront taxés à 5%, puis 5% de plus le mois suivant, et encore le mois d'après, jusqu'à atteindre 25% au 1er octobre. Chaque année, les États-Unis importent du Mexique environ 350 milliards de dollars de biens, des produits agricoles, des voitures, des instruments médicaux, etc., qui seront donc soumis à ces nouveaux tarifs. En enclenchant ce bras de fer commercial, Donald Trump veut faire pression sur les autorités mexicaine afin qu'elle lutte plus efficacement contre l'immigration clandestine. Mais la stratégie est risquée car elle peut torpiller l'accord commercial que Trump a pourtant lui-même conclu avec le Mexique et le Canada. Autre conséquence, tous les produits arrivant du Mexique aux États-Unis seront immédiatement plus chers. Mauvaise nouvelle pour le consommateur américain. Mais avec ces menaces, Donald Trump sait aussi qu'il replace l'immigration clandestine au cœur de son programme à 18 mois de la présidentielle.
Donald Trump qui par ailleurs suspend le traitement commercial préférentiel qui existait jusqu'alors entre les États-Unis et l'Inde. Il avait toute cette année régulièrement dénoncé les tarifs douaniers élevés que l'Inde impose aux produits américains. La fin d'une longue attente en République démocratique du Congo. Le corps de la figure de l'opposition dans le pays, Étienne Tshisekedi, mort il y a plus de 2 ans maintenant en Belgique, son corps est enfin de retour en RDC, son pays natal. L'avion transportant son cercueil s'est posé hier soir à l'aéroport de Kinshasa où des milliers de Congolais l'attendaient avec émotion. Une soirée qui fera date dans l'histoire du pays. Florence Maurice était sur le tarmac de l'aéroport.
Silence et recueillement. Lorsque l'avion d'Étienne Tshisekedi se pose enfin sur le tarmac, quelques proches sont au pied de l'appareil. Félix Tshisekedi, le fils désormais président, observe, visage grave aux côtés de nombreux officiels. Il serre sa mère longuement dans ses bras, puis pose ses mains sur le cercueil. L'émotion se lit dans les regards. Patricia Kabena est l'une des filles de l'opposant.
Notre père, élu en 2011, bien qu'il n'a pas exercé son pouvoir, il reste notre président élu.
Un mélange de tristesse et de soulagement de voir enfin l'opposant historique de retour sur sa terre. Christophe Ngoy, figure de la société civile congolaise.
Sa présence va raviver la flamme qu'il a laissée et nous sommes là pour l'entretenir.
Nombreux dans l'assistance expriment leur reconnaissance vis-à-vis du combat mené par l'opposant pour qu'émerge la démocratie dans le pays. Parmi eux, l'ex-prisonnier politique Frank Diongo.
C'est une perte immense pour la RDC. Il nous enseignait à dominer la peur, à démystifier les dictateurs, à combattre pour un état de démocratie. Et de droit.
Le cercueil est placé dans un corbillard vitré et aux couleurs du drapeau congolais. Lorsque le cortège funèbre quitte l'aéroport, une foule nombreuse s'élance dans sa suite en courant.
C'est ici notre héros, leader maximum de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux d'avoir créé notre père de la nation.
Florence Maurice, correspondante de RFI à Kinshasa pour France Culture. L'espoir d'une trêve au Yémen s'éteint jour après jour. 6 mois après un sommet en Suède à ce sujet, les belligérants au Yémen, outils et gouvernements, poursuivent toujours leur combat. La trêve s'éloigne donc. Une crise d'autant plus complexe que s'affrontent par alliés interposés les États-Unis et l'Iran. Et cela a sapé tous les efforts de paix au Marwaman.
Les États-Unis et l'Iran se livrent au Yémen une guerre par procuration. Chacun son allié, l'Arabie Saoudite pour Washington et les milices houthis soutenues par Téhéran. Le chercheur yéménite Osama al-Rawani.
L'Arabie saoudite est l'allié des États-Unis dans la région, ce qui signifie que les tensions actuelles entre le régime iranien et Washington ont obligatoirement des répercussions sur la guerre au Yémen.
Au soutien américain à Riyad, les Iraniens répondent par un appui militaire accru aux milices houthis. Majid al-Madaji, spécialiste du Yémen.
C'est un soutien plus actif. Les houthis ont reçu des missiles plus sophistiqués. Ils bénéficient également de drones plus modernes.
Une aide militaire à cette milice houthi que Majid al-Madaji fustige, tout comme les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Il contredit la version de Florence Parly, la ministre des armées, selon laquelle rien ne prouve que l'armement vendu par la France à Riyad tue des civils au Yémen.
Toutes les armes utilisées au Yémen tuent des yéménites, même les armes françaises. Mais le problème avec la France, c'est qu'elle n'use pas de son influence sur le plan politique pour mettre fin à cette guerre au Yémen.
La France n'est pas la seule à être épinglée par ces chercheurs, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui est accusée d'avoir abandonné le Yémen à son sort.
Omar Waman, qui évoquait l'Arabie saoudite engagée dans la guerre au Yémen et alliée des États-Unis contre l'Iran. Hier, Riyad a accusé Téhéran de menacer la sécurité dans le golfe Persique. Le roi Salman avait convoqué un sommet d'urgence avec les États arabes à ce propos. Le procureur de la République de Paris assure dans une interview au Parisien ce matin que des policiers accusés de violence envers des gilets jaunes seront renvoyés en correctionnel d'ici la fin de l'année. Rémi Heitz ne rentre pas dans le détail de chaque affaire, mais il affirme que des juges d'instruction travaillent déjà sur 8 cas de violence, notamment sur des manifestants frappés à la matraque dans Paris. Il n'y a aucune volonté d'éluder ces violences ou de les minimiser, affirme le procureur de Paris. Explication avec Anne-Laure Bouzige.
Les policiers sont donc des justiciables comme les autres, une mise au point nécessaire pour David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Beaucoup imaginent à tort que les policiers bénéficient d'une forme de présomption d'innocence, voire permanente. C'est totalement faux. C'est une institution qui est extrêmement contrôlée, parfois extrêmement sanctionnée. Il faudra que les policiers, s'il y en a qui sont coupables, soient sanctionnés à la juste mesure de ce qu'ils ont fait. Mais en tout état de cause, ils sont des justiciables et s'il y a des faits qui leur sont reprochés, ils vont pouvoir s'expliquer devant la justice.
Pour l'instant, aucun policier ou gendarme n'a été mis en examen, mais 8 affaires sont désormais entre les mains de juges d'instruction. C'est le cas de Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil après un tir de LBD fin janvier. Son avocat Riyad Limi dénonce la différence de traitement judiciaire entre gilets jaunes et forces de l'ordre.
Ce traitement est inéquitable, dont M. Heitz est responsable, puisque c'est lui qui est procureur de la République et qui oriente les procédures, a peut-être contribué à aggraver la situation et la crise des gilets jaunes, parce que quand vous avez des violences qui restent sans réponse judiciaire, eh bien cela amplifie la violence du mouvement.
Mais pour le syndicat Unité SGP Police, les forces de l'ordre sont jetées à la vindicte populaire, alors que selon le syndicat, la responsabilité est collective, à commencer par celle du ministère de l'Intérieur.
Les gardes à vue des parents et du frère du principal suspect de l'attentat de Lyon ont été levés faute d'éléments incriminants. Le suspect, lui, est toujours interrogé dans les locaux de la sous-direction antiterroriste. Hier, il a reconnu avoir prêté allégeance au groupe État islamique. Les chiffres avaient été précisés la semaine dernière et ils ont une résonance particulière en cette journée mondiale sans tabac. En France, l'année dernière, le tabac était la cause d'un décès sur 8. Le pays comptait 11,5 millions de fumeurs. C'est tout de même 1,5 million de moins qu'en 2016. Cette baisse correspond à la fois au nombre de personnes qui arrêtent la cigarette et à la réduction du nombre d'entrées dans le tabagisme. Les politiques publiques y sont pour quelque chose. Voilà ce qu'estime Jean-Pierre Coutron. Il est psychologue clinique spécialisé dans les addictions.
On voit que la politique du prix continue, comme à chaque fois, d'avoir des facteurs dissuasifs. On voit que le paquet neutre, la bataille autour du côté très attractif du tabac, referme un peu la porte d'entrée. On pourrait dire que les interdits de consommer dans l'espace public, dans un certain nombre de lieux, qui compliquent et puis qui dénormalisent le tabac, continuent même à distance d'avoir l'effet. La bataille qu'il faut sans cesse mener pour que le tabac réapparaisse pas à la télé, dans le cinéma, on voit qu'il y a toujours des tentatives maintenant avec les influenceurs sur... Voilà, donc une sorte d'attractivité du produit qui est mieux contrôlée à travers ces outils, paquets neutres, lutte contre la publicité, interdiction de consommation sur des plages. Et puis, il y a les sorties. Et les sorties, il y a eu des mesures très fortes, hein, l'accessibilité, la gratuité des traitements substitutifs, l'apparition de nouveaux modes de traitement médicamenteux, puis je le garde pour la fin parce que parfois on l'oublie, une certaine installation du vapotage qui se révèle être un outil et de réduction des risques et pour certains un outil de sortie du tabagisme. Donc ça marche bien.
Des propos recueillis par Lou Fahim pour France Culture. Le soleil s'installe sur l'Hexagone ce vendredi. Les quelques nuages matinaux sur la Normandie devraient se dissiper à la mi-journée. Comptez ce matin 18 degrés à Lille, 20 à Paris, 22 à Bordeaux, 24 à Perpignan. Des températures qui vont grimper jusqu'à dimanche.